Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Dans l'émission que voici, l'écrivain et futur académicien Roger Caillois confronte de façon audacieuse le comportement d'un insecte, la menthe religieuse, et les délires de l'homme. La menthe religieuse, c'était précisément le titre d'un essai qu'il avait publié en 1937. Une réflexion sur l'instinct et ses implications de l'animal à l'homme. Cette émission est le cinquième volet d'un entretien en 12 parties, première diffusion en avril 1970.
Roger Caillois, nous parlions hier du mythe de Paris. Mais vous parlez aussi du mythe de la menthe religieuse. Et même à propos de la menthe religieuse, vous parlez de mythe biologique. Est-ce que vous employez le mot mythe dans le même sens à propos du mythe de Paris et du mythe de la menthe religieuse?
Eh bien, je n'emploierai pas le mot mythe pour la menthe religieuse. Parce que j'ai pris menthe religieuse comme le noyau d'un certain nombre de phénomènes qui ne sont pas tous mythiques, qui peuvent être des phénomènes de comportement ou même des phénomènes d'ordre biologique, n'est-ce pas? Seulement, la menthe religieuse, enfin, peut-être est-il bon de le rappeler, c'est un insecte qui ressemble à la sauterelle, mais qui a les pattes antérieures, des pattes ravisseuses, c'est un insecte féroce, qui peut même attaquer des grenouilles, par exemple, et qui est répandu dans le monde entier, en particulier en Afrique australe, mais surtout dans le bassin méditerranéen, au sud de la France, où on l'appelle prie-dieu. Parce que ces pattes ravisseuses dont je vous parlais, représentent à peu près les mains d'une femme en prière. Et cet insecte est connu dans le monde des biologistes, et même d'une façon plus large, par une caractéristique de sa vie sexuelle. C'est qu'elle dévore le mâle pendant la copulation, c'est-à-dire qu'elle joint la volupté sexuelle à la gourmandise ou à la voracité. Et cet animal, même si on ne connaît pas ce détail très particulier de ses mœurs, a toujours donné lieu à un folklore très abondant. Dans le midi de la France, en Grèce notamment, même en Grèce en Grèce classique où Théocrite par exemple la considère les personnages de Théocrite la considèrent comme une magicienne, n'est-ce pas? Elle figure d'ailleurs sur des monnaies grecques, mais c'est surtout où on pourrait parler de menthe religieuse, c'est en Afrique du Sud où la menthe religieuse est le dieu principal des populations indigènes comme les Hottentots ou comme les Boshiman. Alors, c'est là qu'il y a des mythes de la menthe religieuse. Mais ça n'est pas ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'il y avait, dans la mythologie, des mythes qui n'avaient pas comme centre la menthe religieuse, mais qui étaient des mythes, disons, de femmes fatales, ou de femelles dangereuses, dont le vagin était denté, par exemple, et coupait l'organe masculin, ou était empoisonné, communiquait une maladie pernicieuse à ceux qui s'accouplaient avec elles, ou encore simplement qui les aspiraient dans leurs organes sexuels, comme chez les Esquimaux, et qui après rejetaient un squelette minimisé avec l'urine, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait des légendes, ou des mythes, ou des délires, parce qu'on retrouvait également ces mêmes aberrations, ces mêmes fables, dans les délires des malades. Il y avait par conséquent une terreur de la femme qui causait la mort de celui qui s'approchait d'elle sexuellement. Alors j'ai eu l'idée de confronter le comportement de l'insecte, qui est automatique, avec les imaginations et les délires de l'homme tels qu'on les connaît, soit par l'étude de la mythologie, soit par l'étude de la littérature psychiatrique. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons affaire à un comportement, à un instinct qui est aveugle, sur lequel l'animal ne peut rien, ceci étant l'aboutissement d'une lignée psychologique où il n'y a que des réactions automatiques, et d'une autre lignée qui est celle à laquelle aboutit l'homme, n'est-ce pas, et où ce qui était automatisme devient au contraire imagination, avec possibilité d'inventer des fables, de se les représenter et aussi de les refuser. C'est-à-dire que ce qui, dans un cas, se passe dans la réalité, se passe dans l'autre cas, dans l'imagination. Et la menthe religieuse m'a paru, avec ses correspondants mythiques de femmes fatales ou de filles poison, ou de femmes à vagin denté, m'est aperçu ce que donnait un instinct ou une pulsion, comme disait la psychanalyse dans à laquelle je m'intéressais beaucoup alors, dont deux lignées éloignées du monde animal, le monde des insectes et le monde humain.
Vous venez de parler de psychanalyse, et en effet, vos études sur la menthe religieuse sont très, très teintées
très inspirées,
de psychanalyse.
Très teintées de psychanalyse.
Nous avons vu l'autre jour, en parlant du rêve, que vous êtes tout à fait revenu sur votre opinion à l'endroit de la psychanalyse.
Oui, parce que j'ai été frappé d'un certain côté presque infaillible de la psychanalyse. J'ai trouvé que la psychanalyse était une science qui ne pouvait que avoir raison. Or, je me méfie d'une pareille science. Et je me souviens que j'ai écrit à ce moment-là, au moment de mon revirement, de ma palinodie vis-à-vis de la psychanalyse, que j'ai écrit une espèce de petite fable que j'ai appelée la fable du parapluie, pour reprendre un cas célèbre, le cas que Freud lui-même a employé pour expliquer la théorie de l'inconscient en ce qui concerne les oublis.
Je ne connais pas cette fable du parapluie, je serais bien heureuse de la connaître.
Eh bien, je ne suis pas sûr qu'il faille l'appeler une fable, c'est peut-être plutôt une dialectique. J'ai pris l'exemple dans la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud, qui montre comment des actes manqués, en apparence insignifiants, sont en réalité révélateurs. Et l'exemple le plus simple qu'il donne est le suivant: si vous oubliez votre parapluie chez quelqu'un, ça n'est pas par hasard, c'est votre inconscient qui l'a dicté, c'est que vous voulez vous ménager une occasion de revoir cette personne que vous aimez, par exemple, ou pour qui vous éprouvez quelques désirs. Mais il se peut, ou le malade, ou le patient, celui qui subit l'examen, peut dire que c'est une personne qu'il déteste. Ah non, dit le psychanalyste à ce moment-là, c'est une personne que vous, ou bien que vous croyez détester, ou bien que vous voulez vous punir de détester. Et comme vous voulez vous punir de la détester, vous vous ménagez une occasion de retourner chez elle. De sorte que le résultat est le même que ce que l'on oublie son parapluie chez quelqu'un que l'on déteste ou chez quelqu'un que l'on aime. C'est déjà un peu inquiétant, cette ambivalence. Mais on peut, et ça arrive très souvent, oublier son parapluie dans un bureau, par exemple, dans une antichambre, dans un hôtel, ou dans le métro, ou dans l'autobus. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est beaucoup plus grave. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est votre attitude vis-à-vis, disons, des transports en commun, ou vis-à-vis des autorités publiques. Il faut remonter beaucoup plus haut. Et puis, il est possible que vous ne vous serviez jamais de parapluie, de sorte que vous n'avez pas l'occasion de l'oublier. Alors là, ça devient encore plus énigmatique, parce que il faut à ce moment-là expliquer votre attitude vis-à-vis du parapluie et le fait que vous refusez d'en user. Et ce phénomène de bascule me paraît très important et très caractéristique du mécanisme de la pensée psychanalytique. Au début, il s'agissait d'expliquer l'oubli. C'était l'oubli qui était révélateur de quelque chose. Mais maintenant, c'est le contraire. Ce n'est pas l'oubli qui doit être expliqué. C'est l'oubli qui intervient comme élément d'explication de quelque chose qui peut être très loin et qui peut faire appel à l'ethnographie, à l'histoire entière du monde et qui peut l'expliquer par son absence, par le fait qu'on ne se serve pas de parapluie. Et c'est ce mécanisme qui m'a écarté de la psychanalyse. C'est-à-dire le fait que dans tous les cas, il y a une réponse prête. Si bien qu'à la fin, on ne peut même plus refuser la psychanalyse, parce que ça prouve simplement que votre inconscient oppose une résistance à la psychanalyse. De sorte que la psychanalyse a toujours raison. Ça ne me paraît pas la caractéristique d'une science sérieuse.
En somme, vous reprochez à la psychanalyse d'être une pensée totalitaire.
Elle est totalitaire, mais je ne trouve pas qu'une pensée ait tort d'être totalitaire. Je reproche à une pensée scientifique d'être infaillible. Je prétends que la science doit se ménager, ou doit se ménager par force, une possibilité d'erreur, mais ne pas avoir par principe et par anticipation réponse à tout.
C'est une immodestie délirante, en quelque sorte.
Oh, délirante, mais plutôt mécanique que délirante.
Probablement. Mais vous dites donc qu'on retrouve au niveau de l'instinct chez l'insecte ce qui chez l'homme devient imagination. Qu'est-ce qui distingue la conduite de l'insecte de celle de l'homme? Qu'est-ce qui fait la caractéristique même de la conduite de l'insecte et celle de l'homme?
C'est que l'insecte ne sait rien. L'insecte agit sans pouvoir agir autrement. Tandis que chez l'homme, l'homme se représente. C'est-à-dire l'homme est un imaginatif et pas un automatique. Et c'est ce qui permet à l'homme de créer les mythes, les rêves, les poésies et toute espèce d'image qu'il a devant soi.
La peinture, la sculpture, et qu'il peut
par conséquent, vis-à-vis de quoi, il peut prendre du champ, il peut prendre une certaine distance, il peut refuser, il peut contrôler, il peut modifier.
Et se tromper.
Et se tromper, bien entendu. Mais se tromper, ça n'est pas uniquement la capacité de faire une erreur, c'est aussi la faculté de la corriger, et par conséquent de franchir une étape ultérieure dans la création.
C'est donc la possibilité de se tromper qui est la possibilité de progresser.
Ça me semble évident. Et quand il y, chaque fois qu'il y a automatisme, il y a arrêt, il y a perte de conscience et perte de la possibilité de faire un pas en avant.
Et vous reprochez à la psychanalyse de ne jamais croire qu'elle peut se tromper.
Oui, elle ne peut pas. Elle peut. Oh, ils admettent les erreurs, surtout les erreurs des autres psychanalystes, bien entendu. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un raisonnement circulaire.
Vous parlez de la mante religieuse qui vous a beaucoup frappé. Pourquoi vous est-elle frappée parmi d'autres animaux qui sont très curieux aussi, comme le fulgor porte-lanterne, cette tortue qui publie sur ses écailles
C'était un cas privilégié, je le connaissais pour différentes raisons, peut-être pour des textes de la mythologie grecque ou des textes concernant les mythologies de l'Afrique du Sud, mais c'est certainement pas le seul animal qui m'est semblé caractéristique, qui m'est semblé le noyau, le centre de tout un complexe de fabulation. Il y a aussi la chauve-souris, il y a différents animaux dont celui que vous venez de citer, le fulgor porte-lanterne. Alors là, la fabulation est allée dans un autre sens. On s'est aperçu que le fulgor porte-lanterne avait une tête de crocodile, reproduisait une tête de crocodile, et ça a posé toutes sortes de questions entre les théoriciens du mimétisme, parce qu'on se demandait pourquoi un insecte qui est une sorte de cigale, n'est-ce pas, une sorte de cigale qui vit sur les arbres, quel intérêt elle pouvait avoir à se promener avec devant elle un espèce de masque creux en forme d'une tête de crocodile d'un centimètre et demi, étant donné qu'il n'y a pas de crocodile sur les arbres et que les lézards qui peuvent dévorer, ou les oiseaux qui peuvent avoir dévoré, envie de dévorer cet insecte, ne vont sûrement pas voir la ressemblance qu'il peut avoir, ne fût-ce que par la taille, avec un animal beaucoup plus grand. Pour ma part, la ressemblance est évidente, mais je ne crois pas qu'elle soit mimétique. C'est-à-dire, je crois qu'il est tout à fait aussi absurde de penser que cet insecte ait voulu ressembler ou ait dû ressembler à un crocodile, parce que c'était intéressant pour la prolongation de sa vie. C'est aussi absurde que le crocodile ait voulu ressembler à cet insecte. D'ailleurs, cette hypothèse serait la plus vraisemblable, car dans l'ordre d'apparition des espèces animales, le crocodile est apparu bien après les insectes homoptères du genre cigale.
Mais je crois que vous avez, à propos de cette ressemblance, des théories très précises et très particulières que, si vous voulez bien, nous verrons demain.
C'était Roger Caillois au micro de Jeannine Worms, 5e volet d'un entretien en 12 parties, première diffusion de cette émission le 3 avril 1970. À suivre.